Bonsoir à toutes et à tous. C'est donc l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine. Aujourd'hui, on va couper cette émission un petit peu en deux parties. Dans un premier temps, Naïk et Tiffany vont nous parler d'un festival. Et dans la deuxième moitié, moi-même, Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix, ben, je parlerai de l'actualité brûlante, c'est-à-dire Liban et Gaza.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc, je me présente, je m'appelle Tiffany Tavo et je suis en compagnie de ma collègue Naïk Msili. On travaille toutes les deux pour une association qui s'appelle les Instants Vidéo Numériques et Poétiques. Donc, l'association, pour vous dire deux, trois mots sur d'où on parle, en fait, c'est une association qui est née à la fin des années 80, qui a 37 ans aujourd'hui, qui est née d'un festival, les Instants Vidéo. Et du coup, qui a comme mission principale de promouvoir et diffuser l'art vidéo à la fois au local, ici à Marseille, dans la région et à l'international. Il s'agit d'un festival international. Dire trois mots sur l'art vidéo. Dans ce cas-là, l'art vidéo, c'est une forme poétique, et on appelle ça aussi la poésie électronique, une forme vidéo qui est née dans les années 60, qui est souvent présentée sous un format assez court et qu'on pourrait définir en faisant une comparaison. Du coup, l'art vidéo serait au cinéma ce que la poésie est au roman. Voilà. Donc, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on travaille donc à la diffusion, la promotion des arts vidéo, des performances. Donc, comme j'ai dit, à travers le festival, mais aussi à travers, donc ici à Marseille, mais aussi à travers la co-création de festivals à l'international. On a participé à la création notamment d'un festival au Maroc, en Syrie et
en Palestine, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. En 2009, nous avons co-créé avec nos partenaires de la fondation Katan à Ramallah le festival, la Biennale d'art vidéo et de performance SIN. SIN, c'est une belle lettre en arabe, et puis c'est aussi voir. Toussi Soussine, et c'est aussi la scène du théâtre. Donc cette biennale, on l'a rêvée avec 11 partenaires en Palestine. Notre idée, c'était à la fois de faire vivre l'art vidéo sur le territoire palestinien, de sensibiliser à cette nouvelle forme d'art. C'était aussi de former de nouveaux artistes d'art vidéo par le biais d'ateliers de création. Et puis c'était enfin, pour nous, les instants vidéo, une manière de donner à voir une autre image de la Palestine en phase avec les enjeux contemporains, vibrante, créative. Donc, la première édition a eu lieu en 2009. Notre intention à nous tous, les 11 partenaires, était de, bien sûr, que cette biennale circule sur tout le territoire de la Palestine. Et elle sillonnait donc différentes villes, Gaza, en fait je parle au passé, mais on en parlera plus tard peut-être de ça. Elle sillonnait donc plusieurs villes de Palestine, de Gaza à Jérusalem, de Birzeit à Ramallah, Bethléem, parfois Jenin, Naplouse. Avec encore une fois l'idée que puisque les personnes avaient parfois des interdictions, d'autres fois des freins à la mobilité, les œuvres, elles n'avaient pas de frontières. Au fil du temps, avec nos partenaires, on a eu envie de s'adresser à un public plus large que peut-être des personnes qui connaissaient déjà un petit peu, ou en tout cas qui faisaient partie du monde de l'art et de la culture. Et on a décidé, à partir de 2009, que la biennale aurait lieu dans l'espace public, pendant le ramadan, après l'iftar. Et la biennale s'est mise à investir. Je me rappelle de 2009, par exemple, où on a investi. 2019, oui. Où on a investi la rue principale de Ramallah. Et les vitrines accueillaient des installations vidéo. On a eu aussi une performance dans la rue.
Et 2019 marque aussi un moment assez fort dans l'art vidéo et dans ce tissage entre les différentes villes que sont Marseille, Ramallah et Gaza. C'est-à-dire qu'on a fait un jumelage artistique entre ces trois villes dans la présentation d'une œuvre assez particulière de Jean-Luc Godard, donc le livre d'images, qui était une certaine manière de faire d'un même territoire à travers ces trois villes que je viens de citer.
Ah, et puis 2022, ce fut la dernière édition à la Biennale en Palestine.
En 2022, nous sommes du coup en juillet 2022, c'est la dernière édition en Palestine. On a ce qui nous a permis en fait d'être accueillis à la fois à Ramallah, à Taïbé, à Bethléem, à Rafah, à Jérusalem et à Gaza, avec des projections de films d'art vidéo, des performances, notamment pour citer Denis Cartet et Sarah Violaine qui sont venus avec nous. Et comme disait Naïk, en fait, c'est à travers la circulation de ces œuvres d'art, c'est aussi créer une unité sur le territoire palestinien. Mmh. On remercie notamment François Tiger, à l'époque directeur de l'Institut français de Gaza, pour nous avoir facilité notre venue à Gaza.
Oui, donc en fait, cette biennale, au cours de ces 7 éditions, elle a permis quand même à 40 artistes internationaux de venir en Palestine, de découvrir ce territoire. Et d'y amener leurs œuvres. Et elle a permis aussi à 50 artistes palestiniens, de Palestine d'ailleurs, d'être diffusés dans les différentes escales que nous faisions, nous, les instants vidéo de par le monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au sud de la Méditerranée, et bien sûr en France et en Europe. On est là aujourd'hui pour vous parler de 2024. Mais avant cela, 2024, donc Biennale de Palestine numéro 8, sous le titre de Éloge de l'ombre haute. Et Éloge de l'ombre haute, c'est un titre qu'on a volé à Mahmoud Darwish. Et Tiffany vous va en lire quelques extraits.
C'est ça, on voulait mettre à l'honneur les mots de Mahmoud Darwish pour cette édition. Beyrouth, la nuit. Pareil à une aubergine. Une lune idiote est passée au-dessus de la guerre. Et les enfants n'ont pas enfourché les chevaux, en son honneur. Beyrouth, la nuit. Je tiens à présent l'air noir rocheux. Je le brise de mes dents. Je le mords. Le mets en sang, puis le botte. Ce qui change les heures, en sable, me rend presque fou. Beyrouth, la nuit. Je n'ai trouvé en toi ni la cellule, ni l'île. Où la poésie est-elle morte? Où Layla a-t-elle cédé à son mari? Sabra, jeune fille endormie. Les hommes sont encore partis. La guerre a dormi 2 courtes nuits. Et Beyrouth, soumise, est devenue une capitale. Une longue nuit guette les rêves à Sabra, et Sabra dort. Beyrouth. Non. Mon dos muraille face à la mer, que je perds l'univers, que je perds les mots. Maintenant je dis non. Ce sont les dernières cartouches. Non. C'est le reste des sanglots de l'âme. Non. Beyrouth. Non. Tu es la liberté de la genèse, toi.
Donc ce poème résonne particulièrement aujourd'hui. Il s'agit, je voulais préciser, d'un extrait de plusieurs extraits en fait d'un poème que Mahmoud Darwish a crié, je dirais, en 83 en Algérie devant le Conseil national palestinien juste après le massacre de Sabra et Shatila. Éloge de l'ombre haute sera donc le titre de la 8e Biennale d'art vidéo et de performance SIN. Au regard de la situation actuelle, la Biennale est contrainte à l'exil. Avec nos partenaires de la Fondation Catane, nous avons décidé qu'elle devait vivre quoi qu'il arrive. Et nous, les instants vidéo, nous allons l'accueillir et l'abriter. Inspirée par les mouvements de libération, de solidarité internationale anti-impérialiste des années 80 et à la croisée des pratiques militantes, artistiques et muséologiques, nous avons lancé un appel à solidarité auprès d'artistes internationaux que nous avions croisés au fil de notre chemin et d'artistes de Palestine. qui consiste, on reviendra peut-être dessus après. Ouais. Donc cette biennale sera accueillie à Marseille dans le cadre du 37e festival Les Instants Vidéo. Nous y ferons aussi une table ronde avec le soutien du réseau Euromed France et la participation de la revue Marcaz et du collectif Mahan pour les artistes de Gaza.
C'est ça. Le 20 octobre prochain, nous vous invitons à venir à la Friche Label de mai, de 14h à 21h, découvrir également une programmation artistique qui est l'héritage de cet appel à solidarité qui a été lancé cette année. Donc sur le programme, c'est deux programmations internationales, comptant chacun 10 vidéos qui ont été envoyées par des artistes d'un peu partout dans le monde, et deux programmations d'artistes réalisateurs et réalisatrices de Palestine. En plus de ça, nous avons également une installation. Donc à votre arrivée sur le lieu de la Biennale, vous serez accueillis par Behind the Horizon, donc derrière l'horizon, de Tomi Mestrovic, artiste croate. Pour vous dire quelques mots sur cette œuvre, où à l'image, nous voyons un horizon parfait, entre le ciel et la mer, avec comme simple perturbation l'arrivée de droite à gauche d'un bateau. Cet horizon parfait est perturbé également par l'aspect sonore de la vidéo, où on entend des cris, des slogans et de manifestations en faveur du peuple palestinien. Et c'est ainsi que vous serez accueillis par cette œuvre très très belle, très poétique et très politique de Tomi Mestrovic. Pour vous dire aussi quelques mots de la suite du programme, dans la programmation d'artistes palestiniens et palestiniennes, nous avons par exemple un film qui s'appelle Idomi, de Iba Islim. Ce film traite de manière assez ironique, satirique, les échanges, les espoirs qui sont faits à Gaza. C'est-à-dire qu'il parle de... Donc Idomi, c'est une marque de nouilles. Une marque de nouilles qui, avant le 7 octobre, a été complètement interdite sur le territoire gazaoui parce qu'il était considéré comme dangereux et nocif. Et depuis maintenant quelques mois, parmi les arrivées, les imports de nourriture en aide au peuple gazaoui a été trouvée, donc cette marque Idomi. L'artiste a décidé, sur un traitement ironique et satirique, d'explorer en fait les différentes manières qu'on pourrait utiliser cette marque, ces nouilles qui n'ont aucun apport nutritif. Donc, est-ce qu'on en fait des vêtements? Est-ce qu'on en fait des chaussures? Voilà, pour vous dire quelques mots sur Idomi de Iba Islim, que vous pouvez découvrir le 20 octobre. Et pour finir sur la présentation des propositions artistiques, on voulait vous parler aussi de Silence de Sarah Violaine. Donc Silence nous a été envoyé dans l'appel à solidarité internationale par Sarah Violaine, qui est, comme j'ai dit un peu plus avant, est venue avec nous en Palestine en 2022 pour la Biennale et qui a fait une performance à Taïb. Dans cette œuvre Silence, elle donne à voir en fait à travers un poème son expérience sur le territoire palestinien qui a duré 24 heures. On a décidé avec Naïk de finir notre intervention dans une heure en Palestine, cette émission, en vous donnant à entendre le poème, l'audio de cette vidéo. Mais avant de vous dire au revoir, on voudrait vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous le 20 octobre de 14h à 21h30 à la Friche Label de mai. Je te laisse dire quelques mots, Naïf.
Oui, on vous donne rendez-vous donc à la Friche le 20 octobre, mais il y aura d'autres rendez-vous parce que l'appel à solidarité s'est ouvert aussi à l'international auprès d'organisations du monde entier. Un certain nombre de structures ont accepté de devenir, elles aussi, musées de solidarité et accueilleront à leur tour la Biennale en Éthiopie, aux États-Unis, dans plusieurs villes, en Égypte,
en Italie, en Allemagne,
au Liban,
en Jordanie,
au Canada,
voilà, un peu
en Belgique. Voilà.
Donc on vous laisse avec l'extrait de l'audio de Silence de Sarah Violaine. Merci beaucoup et à très vite.
À bientôt.
Au revoir.
devenu 24 heures. Je ne te connaissais qu'au travers l'écran des médias et le mal qui te frappe. La fondation AM Katan m'a donné rendez-vous avec toi. Oui, c'était en juillet 2022. C'était oui. Je suis arrivée, je t'ai rencontrée, je t'ai connue 24 heures. Palestine. J'ai tout regardé, j'ai appris, j'ai essayé. Tes femmes, tes filles, tes hommes et tes fils m'ont accompagnée. J'ai observé, j'ai commencé à comprendre, j'ai essayé. Je t'ai rencontré, je t'ai connu 24 heures, Palestine. Ramallah, la lumière, des sourires. Mes amies artistes, elles, à Jérusalem, à Gaza, ailleurs, à travers toi. Nuit de veille. Et ta prière qui habillait le noir, l'écho. J'étais là pour te présenter ma performance, mon travail. Les femmes, l'image, ce que l'on fait de nous. Puis, Tichrine, c'est là que tu m'as voulu. Des visages, des sourires, des échanges, des questions. Palestine, je t'ai rencontrée, je t'ai connue 24 heures. Je t'ai parlé, tu m'as demandé, j'ai essayé. Avec tes femmes, tes filles, tes hommes, tes fils, nous avons coupé mes cheveux. Des frères ont salué, une sœur a pleuré. Mes yeux et mes bras n'ont pas oublié. Tes images dans mon téléphone, cachées car il fallait repasser. Et mes publications signalées. J'étais rentrée. 3 mois ont passé, et sur la toile, la planète s'est coupée les cheveux. Pour nos sœurs, iraniennes. Par respect pour toi, pour tes femmes, pour ce qu'on a fait, j'ai gardé notre entrevue à sa place délicate. L'indécence et l'obscénité de l'exposé au risque de briser l'humilité de notre échange. C'était non. Palestine, je t'ai rencontrée. Je t'ai connue 24 heures. Depuis, je te regarde sans rien dire, à travers mon écran. J'envoie un like, solidaire sur ta story. Impuissance. Palestine, je t'ai rencontrée. Je t'ai connu 24 heures, mais je continuerai de te regarder. Palestine, il n'y aura pas de silence.
C'est un peu difficile de prendre le relais après ça, mais je vais quand même le faire. Je vais un petit peu rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé de l'Institut culturel français à Gaza, de François Tigier. Moi, j'avais connu le précédent, Anthony Bruno. Il faut savoir que l'Institut culturel a été détruit par les bombardements israéliens, que parmi les morts, et c'était dans les premiers jours, il y a eu 2 employés de l'Institut qui ont été tués. Si par hasard vous avez entendu la France protester, vous me le dites vite, avant que je dise du mal de notre noble pays, mais bien évidemment, ils n'ont pas protesté. Je vais commencer par le Liban. Je vais faire un petit rappel historique. En 1975, ce qu'on appelle la guerre civile au Liban commence avec le massacre d'un quart palestinien en face du camp de la quarantaine. Il y aura 33 morts. Et ce sont les phalangistes, un parti fasciste allié d'Israël, qui sont à la manœuvre. Dans cette guerre du Liban, on pense évidemment au massacre du camp de Tel el-Zatar, toujours les phalangistes, au massacre de Sabra et Shatila, 1982, les phalangistes, avec la complicité éhontée et évidente des Israéliens qui sont dans Beyrouth. Il y aura là-dessus un film israélien qui sortira, Valse avec Bachir, qui n'est pas génial, mais au moins qui dit, qui est la reconnaissance de la responsabilité israélienne. Il y a un film beaucoup plus intéressant, un film allemand qui s'appelle Massacre, et qui où la réalisatrice allemande interview 10 phalangistes qui ont participé au massacre, dont 2 qui témoignent à visage découvert. Et puis, dans cette guerre civile du Liban, il va y avoir quasiment 20 ans d'occupation israélienne du sud-Liban, pratiquement toute la zone au sud de Beyrouth. Après, ils ont reculé un petit peu, mais c'est occupé. Et comme ils ont toujours fait, ils ont installé une situation coloniale. Je visite Israël et la Palestine au moment des accords d'Oslo en 1994 et à Metula, le poste frontière avec le Liban. Il y a une queue impressionnante de villageois du sud-Liban dont on a détruit l'économie et qui travaillent comme travailleurs immigrés sous-payés en Israël, exactement comme les Gazaouis ou les habitants de Cisjordanie ont travaillé en Israël avant les accords d'Oslo. Nos médias, immédiatement, de la même façon qu'ils ont accolé le mot terroriste à Hamas, ils accolent le mot terroriste au Hezbollah. Indépendamment de ce qu'on peut penser ou ne pas penser du Hezbollah, il y a une chose qui doit être claire. Le Hezbollah, il est né de la résistance. Il est né de 20 années d'occupation et s'il a certainement des défauts que je partage sur sa cogestion du Liban, il a un énorme mérite, c'est celui d'avoir foutu dehors l'occupant. Il y a eu deux guerres, deux tentatives israéliennes à nouveau d'invasion du Liban en 2000, et cette fois-ci ils sont partis, en 2006. En 2006, pour la première fois, des commandants de l'armée israélienne ont ouvertement désobéi aux ordres qui leur étaient donnés en disant « on n'envoie pas nos hommes parce qu'on les envoie à la mort ». Ça a été une véritable débandade. Et dans le prestige qu'en a tiré le Hezbollah, ben, il a tiré le prestige d'avoir foutu l'occupant dehors et d'avoir permis aux habitants de cette région, majorité chiite mais forte minorité chrétienne, et ces gens-là ont toujours vécu en bonne intelligence, de pouvoir revenir chez eux dans leur village. Ce qui se passe au Liban aujourd'hui, c'est la suite de ce qui se passe à Gaza. Et là-dessus, avant de décrire la situation, on doit dire une chose très claire. Rien ne serait possible sans l'Occident. Israël, aujourd'hui, se comporte en bras armé des Occidentaux. C'est eux qui font la guerre par armée israélienne interposée dans la région en voulant changer le cours des choses, c'est-à-dire liquider la Palestine et sa résistance et faire du Liban, ce qui était déjà le projet à l'époque de la guerre civile, un État croupion allié des féodaux du Golfe et d'Israël. Et c'est ça véritablement qui est à l'œuvre. Alors les moyens, et évidemment, si l'Occident voulait arrêter Netanyahou et la bande de fascistes qui sont autour de lui, ils ont des moyens absolument évidents. D'une part, qu'il n'y ait pas de veto au Conseil de sécurité sur l'arrêt immédiat des hostilités sur le cessez-le-feu. Et d'autre part, évidemment, arrêter de livrer des armes pour l'Europe, arrêter l'accord de libre-échange qui permet aux produits israéliens, y compris les produits des colonies, d'inonder nos marchés sans taxes. Les moyens, ils sont énormes, on les a. Je rappelle que le plus grand partenaire économique de l'État d'Israël, c'est l'Union européenne. Je rappelle aussi que depuis 1967, les États-Unis ont donné 158 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. 158 milliards de dollars. Vous pouvez essayer de comparer ça avec tous les chiffres de déficit ou autres. Ce sont des sommes absolument mirobolantes. Donc les moyens de pression existent. Vous devez donc bien considérer que l'offensive actuelle, c'est une offensive concertée avec les États-Unis qui laisse faire. Alors évidemment, ce qui est utilisé aujourd'hui au Liban, c'est une copie conforme de ce qui dure maintenant, le 7 octobre, ça fera un an, à Gaza. C'est-à-dire il y a une seule innovation, c'est que Israël a montré ses performances technologiques avec les talkie-walkie et les beepers piégés. Donc on peut supposer qu'au prochain salon de l'armement, ils vont vendre leur technologie en disant « Avant, on expérimentait sur les Palestiniens, mais là, on a expérimenté sur les Libanais. Ça marche très bien, vous pouvez acheter notre matériel. » On a une toute petite satisfaction cette année, c'est qu'au dernier salon Eurosatory, grâce aux militants BDS et à Stop Arming Israël, les Israéliens n'ont pas pu exposer, leur stand a été vide. C'était quand même une grande victoire du boycott cette année. Donc ils ont utilisé cette technologie de pointe, et après, ce sont les tapis de bombe. Alors, les Libanais parlent maintenant de plusieurs centaines de morts, on approche le millier de morts, ça augmente sans arrêt. Ne pensez pas que c'est uniquement la zone frontalière où je m'étais rendu en 2019 qui est bombardée. Ils ont bombardé Baalbek, qui est une ville à majorité chiite, mais très loin, très très loin de la frontière israélienne. Ils ont bombardé à plusieurs reprises Beyrouth, qui est quand même aussi assez loin de la frontière israélienne. Donc le Liban tout entier est une cible. Au Liban, la population chiite, c'est en gros un tiers de la population. Mais tout le monde est imbriqué. Les villages, les villes, il y a bien sûr des quartiers à dominante grecque orthodoxe, à dominante maronite, à dominante chiite, à dominante sidde, mais globalement, les populations sont complètement imbriquées. Et évidemment, quand les Israéliens bombardent, tout le monde est bombardé. Et le nombre de morts, évidemment des enfants comme à Gaza, évidemment des femmes, il est incommensurable. Et surtout, actuellement, on parle de plus de 500 000 personnes qui essaient de fuir les bombardements en se retrouvant exactement dans la même situation que celle que les Gazaouis connaissent depuis un an. C'est-à-dire fuir, c'est bien joli, mais fuir où? Puisqu'il n'y a strictement aucune zone sûre et que chaque jour, il y a un nouvel objectif qui est avancé. Donc on est dans cette situation-là. On attend évidemment une réaction internationale. Ce qui est fou, c'est qu'il va y avoir maintenant des tas de discours à l'ONU. On attend l'ineffable Macron, mais pour vous rassurer sur Monsieur Macron, il vient de nommer ministre de l'Europe Benjamin Haddad, député Renaissance du 16e arrondissement de Paris, pas de Marseille, et lequel Benjamin Haddad s'était précipité en Israël au lendemain du 7 octobre pour répercuter toutes les fake news sur les bébés éventrés, les femmes décapitées, etc., qui sont autant de fake news dont il a été démontré que c'était des fake news. Je suppose que ce sont ces fake news qui ont permis à M. Haddad de devenir ministre de l'Europe. Donc on est bien représenté, on n'a pas d'inquiétude à se faire sur et la politique française et la politique européenne sur la question. Alors je vais couper un tout petit peu. Juste avant, je dis que on a la manifestation hebdomadaire à Marseille pour Gaza, c'est toujours le dimanche à 14h à la porte d'Aix, mais il va y avoir dès après-demain une manifestation pour le Liban, donc il faut y aller aussi. Je vais couper avec un petit peu de musique, je ne change pas chaque fois que je passe ici, je vous passe Dominique Grange, Détruisons le mur, parce que c'est tellement d'actualité.
Ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, et derrière les barbelés. Elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire. Petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies. Il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui. Mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra.
Il y avait encore un couplet, mais je vous conseille vraiment de réécouter cette magnifique chanson de Dominique Grange, ancienne chanteuse de mai 68, très engagée sur la Palestine. Voilà. Alors je vais vous parler de Gaza. D'ailleurs, je précise que je ferai une formation sur Gaza le samedi 5 octobre à la CIMAD, à l'invitation de Palestine 13, sur Gaza. Pour ceux qui ont envie de venir, mais je vais un petit peu résumer ce qu'il faut, de mon point de vue, de misérable juif antisioniste, savoir sur Gaza. D'abord, 75% de la population de Gaza sont des réfugiés. 72% ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies des réfugiés palestiniens. Donc évidemment, quand on parle de la revendication fondamentale des Palestiniens, qui est le droit au retour, puisque le crime fondateur a été de les virer de leur propre pays, c'est pas la peine de les faire retourner à Gaza, ils sont déjà les trois quarts de la population. Bien évidemment, le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est dans l'Israël d'avant 1967. Gaza, il y a eu un grand massacre en 1956, quand Israël, avec les impérialistes français et britanniques, a attaqué l'Égypte et occupé pendant 6 mois le Sinaï, 500 morts. Il y a une très belle bande dessinée de Joe Sacco qui raconte le passage des Israéliens à Gaza, les exécutions sommaires. Gaza est occupé depuis 1967, donc ça va faire maintenant 57 ans. Et Gaza est sous blocus depuis la victoire du Hamas aux élections de 2006, donc depuis 18 ans. Blocus par terre, par mer et par air. On dit souvent c'est une prison à ciel fermé, non. À ciel ouvert, non, c'est une prison à ciel fermé. Et d'ailleurs, quand vous rentrez à Gaza par Israël, par la frontière d'Erez, vous traversez une cage qui fait plusieurs centaines de mètres. Quand vous rentrez par l'Égypte, c'est pas franchement mieux. À Gaza, il y a deux murs infranchissables, l'un au nord avec Israël et l'un au sud avec l'Égypte, qui participent au blocus de Gaza. Et il y a une barrière de très haute technologie sur les 40 km de frontière orientale. Alors je tiens quand même, pour comprendre mieux le 7 octobre, à décrire cette barrière. Elle est électrifiée. Vous avez tous les 250 mètres des tortueuses, un mélange de Moyen-Âge et de futurisme. Il n'y a personne dans ces tours. Elles sont télécommandées depuis une base militaire ou depuis Tel Aviv. Et de temps en temps, ce qu'il y a en haut de la tour, qui fait une vingtaine de mètres de haut, le champignon s'ouvre, une mitrailleuse sort et tire. Elle tire, elle assassine des paysans qui se sont approchés de la barrière parce que c'est là que les terres sont les meilleures, des journaliers qui sont en train de ramasser de la ferraille. Et puis, entre ces tortueuses, et c'est documenté, il y a 150 puits. Alors à Gaza, quand j'y étais, il n'y avait pas d'eau potable, et pour cause, parce que les Israéliens pompent en amont la nappe phréatique, qui vient de Cisjordanie, et la nature ayant horreur du vide, la nappe phréatique a baissé, et elle a été envahie par l'eau de mer. Quand vous êtes à Gaza, et qu'il est évidemment impensable de boire l'eau du robinet, et quand vous vous douchez ou quand vous vous lavez les dents, vous voyez bien que c'est totalement salé. Donc on est dans cette situation de pénurie d'eau potable complète. Et on est également, ça c'est avant l'attaque du 7 octobre, en situation de pénurie totale d'électricité. Il y avait, selon les périodes, depuis une dizaine d'années, entre 4 et 8 heures d'électricité par jour. Vous devez imaginer ce que c'est que une zone surpeuplée, il y a 6000 habitants au kilomètre carré à Gaza, il y a 2 300 000 habitants, dont plus de 600 000 dans la capitale, ce que ça veut dire que la nuit tombe et que c'est la nuit noire, parce qu'il n'y a pas d'électricité, alors c'est par zone, il y a des zones qui en ont, des zones qui n'en ont pas, ça tourne, et donc les Gazaouis se débrouillent avec des moyens comme ils peuvent, avec des batteries, avec des groupes électrogènes. Si vous avez vu le film Le Chanteur de Gaza, il y a une scène extrêmement comique, il est en train de s'entraîner à chanter. Évidemment, c'est le groupe électrogène qui fournit l'électricité. Et brusquement, le groupe dysfonctionne et il est asphyxié par la fumée du groupe électrogène. Il est obligé de sortir à moitié asphyxié, d'arrêter de chanter. Mais ça, c'est la situation presque quotidienne à Gaza. À Gaza, il ne reste plus que 20% de terres agricoles à cause de la pression démographique, à cause aussi de la pollution. Le Wadi Gaza, qui est un fleuve de 80 km qui arrive d'Israël, c'est un égout à ciel ouvert. 95% des plages sont interdites à la baignade à cause de la pollution. Et il faut savoir que quand les Israéliens bombardent, ils ont toujours bombardé, bien avant le 7 octobre. Il y a eu des très grands bombardements. Plomb durci 2008-2009, 1400 morts. Pilier de la défense 2012, 180 morts. Bordure protectrice 2014, 2400 morts. Il y a eu, quand on parle de la violence des Gazaouis, n'est-ce pas, les marches du retour qui étaient totalement pacifiques. Les Gazaouis manifestaient le long de la barrière pour signifier qu'ils avaient le droit de rentrer chez eux. 350 morts et 10 000 gens. Sans compter les bombardements, où paraît-il, il y avait dans des immeubles des terroristes du djihad islamique ou du Hamas, et on détruisait tout l'immeuble et toutes les familles avec. Donc quand on bombarde Gaza, il faut quand même savoir qu'en priorité, ce qui est attaqué, c'est la centrale électrique, c'est les stations d'épuration des eaux et c'est les fermes à poulets, qui sont toutes évidemment des objectifs militaires, vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire que la volonté de l'occupant, en dehors du génocide, comme juif, je me permets de dire que c'est un génocide à Gaza. Ils font ce qu'on appelle un sociocide, c'est-à-dire la destruction programmée de tout ce qui fait société à Gaza, notamment tout ce qui est l'appareil productif qui est ciblé en priorité. Parmi toutes les calomnies qu'on lance sur Gaza, il y a l'idée que ce serait que les Gazaouis seraient soit d'odieux terroristes barbus, soit des victimes d'une dictature impitoyable. C'est ni l'un ni l'autre. Gaza, c'est une société normale dans des conditions totalement anormales. Gaza, c'est une société pluraliste. Vous rentrez dans un taxi, c'est immédiatement « vive le Hamas ». Ah non, abat le Hamas, ce sont des corrompus. Les gens discutent librement. La dernière fois que j'y suis en 2016, comme président à l'époque de l'Union juive française pour la paix, je rencontre 80 personnes de tout le monde, des associations de bédouins, d'étudiants, de pêcheurs, des associations culturelles, des associations de femmes, et tous les partis politiques de Gaza, sans exception. Et partout, la réponse, c'est « nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs ». Nous avons rencontré la direction politique du Hamas, pas la direction militaire, c'est elle qui détient vraiment le pouvoir, c'est elle qui a décidé le 7 octobre. Mais évidemment, la discussion avec la direction politique du Hamas, le président de la Chambre des députés, était ce qu'on appelle en France franche et cordiale, c'est-à-dire qu'on n'était pas d'accord sur plein de choses, mais on a discuté librement, ils étaient ravis de discuter avec nous. On leur a expliqué tout le mal que la société civile de Gaza disait d'eux, ils se sont justifiés, ils ont expliqué tout le mal qu'ils pensaient de l'autorité palestinienne. On a rencontré le Fatah, qui n'est pas clandestin à Gaza. On a rencontré une dirigeante et un dirigeant du Fatah, avec des propos assez contradictoires. On a rencontré le djihad islamique, c'est quand même un peu plus rare, son secrétaire général. Et on a rencontré le FPLP, en particulier Mariam Aboudaka, qui sera arrêtée dans ma voiture à Marseille en novembre dernier. Et puis on a rencontré tous les petits partis de gauche, dont le Parti communiste, l'Union démocratique palestinienne. Il y a une vie politique intense à Gaza. Il y a des associations de femmes extrêmement dynamiques. Bien sûr, c'est une société patriarcale, mais les femmes ne se laissent pas faire, ça discute. À l'Institut culturel français, on a eu avec les francophones des discussions justement sur faut-il élever de la même façon les petits garçons et les petites filles. Je peux vous garantir que les femmes n'avaient pas leur langue dans leur poche et que ce qu'elles disaient, ce que répondaient les hommes, c'était un véritable débat sur des questions de société prioritaires. Alors le 7 octobre, je suis totalement indigné quand les gens disent « les Palestiniens ont attaqué ». Mon père était dans le groupe Manouchian, qui était traité par les nazis d'armée du crime. Mais ce n'est pas les résistants qui attaquaient les nazis, hein. C'est les nazis qui occupaient la France et les résistants y résistaient. Et dans le droit international, la résistance à l'oppression, c'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Et la résistance, c'est par tous les moyens, y compris les luttes armées. Je rappelle que Nelson Mandela, avant d'être encensé par l'opinion publique mondiale, dirigeait la branche armée de l'ANC. Et il avait posé des conditions auxquelles les gens devraient réfléchir sur la solution à cette guerre. Mandela, il avait dit... Trois conditions ne sont pas négociables. L'Afrique du Sud est une et indivisible, une personne égale une voix, et vous reconnaissez que l'apartheid est un crime. Pour tous ceux qui songent à la paix au Proche-Orient, il faudra s'inspirer de ce qu'a dit Mandela, c'est ça le fil directeur, c'est en tout cas ça le droit international. Sur le 7 octobre, je vais reprendre ce qu'a dit un grand anticolonialiste israélien, que sûrement beaucoup d'auditeurs connaissent, Michel Warshavsky. Il a dit « c'est une cocotte minute qui a explosé ». Si je l'ai déjà dit, je crois, sur cette antenne, mais je vais le répéter. S'il faut comparer le 7 octobre à un événement historique qui a eu lieu, qui nous concerne, nous, les Français, je le comparerai au 1er novembre 1954 en Algérie. Après 124 ans de colonialisme, après un tiers de la population qui a été tuée dans les 40 premières années, après une situation où il y avait plus d'illettrés chez les musulmans en 1954 qu'en 1830 au moment de l'invasion, il y a eu une insurrection. Et le premier jour de l'insurrection, ils ont tué des innocents, des civils innocents, des médecins, des pharmaciens, des institutrices. Ça veut dire que dans une situation coloniale, la société civile de l'État colonial ne peut pas imaginer qu'elle est en dehors de ça. Nier qu'il y ait une situation coloniale comme tous nos médias l'ont fait, et vouloir dire le 7 octobre c'est le début et c'est les méchants terroristes qui ont attaqué, je le dis, c'est une infamie et c'est un non-sens historique. La Palestine est attaquée depuis 75 ans, elle a le droit de se défendre, on a le droit de ne pas approuver la façon dont elle s'est défendue. Je vais parler maintenant de nos relations avec la société civile de Gaza. Nous recevons de Gaza, de la société civile, des critiques assez fortes sur le Hamas, sur le mode « vous n'avez pas anticipé ce qui allait nous arriver ». Ces critiques sont tout à fait légitimes, mais traiter le peuple gazaoui de terroriste, je le répète, c'est une infamie. Juste avant de décrire ce que nous faisons à Gaza, je voudrais citer les paroles d'une grande anticolonialiste israélienne, Nourit Peled, professeure d'université, fille d'un des fondateurs de l'État d'Israël, qui a été un des premiers à entamer des négociations avec les Palestiniens. La fille de Nourit, Smadar, a été tuée dans un attentat du Hamas en 1997 à Jérusalem. Elle avait 14 ans. Netanyahou, qui était premier ministre déjà à cette époque, a envoyé à Nourit ses condoléances et Nourit lui a répondu « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou être assassinés. » Moi, je pense que c'est la bonne réponse qu'il faut donner au 7 octobre. Oui, il y a eu quelques personnes de gauche qui sont mortes aussi, innocentes, le 7 octobre. Sur l'innocence des kibboutz, je suis plus réservé. Mariam Aboudaka, quand elle était chez moi, elle est Gazaoui, pas de réfugiée, de lointaine ascendance Gazaoui. Elle m'a dit « Nos terres, c'est les kibboutz actuels. » C'est-à-dire qu'ils ont été volés, mais c'est les terres des Gazaouis, les kibboutz Berry, etc. Après, je vous ai parlé de l'eau à Gaza. Je vais vous parler du château d'eau qu'on a aidé à construire. Les paysans de la frontière, ils creusent à 150 mètres de profondeur pour avoir de l'eau. Et quand vous êtes chez eux, vous voyez en face les fameux kibboutz avec la pelouse, la piscine et l'arrosage automatique. Donc c'est des gens de gauche, mais juste dans une situation un peu coloniale, qu'on ne peut jamais, qu'on ne doit jamais oublier, parce que c'est la réalité. Alors je vais vous parler, parce que c'est aussi un appel, sur ces 10 dernières minutes, je vais vous parler de ce qu'on fait à Gaza depuis maintenant 8 ans. On était à Gaza, je vous ai dit, en 2016, et quand on va visiter les paysans des villages de Houza et d'Abassan, leur moktar, leur chef traditionnel, qui est élu par les grandes familles, ce sont des familles de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, leur moktar Abou Jamal nous dit « Voilà, on va arriver à la récolte des melons et des tomates, mais il nous faut de l'eau, et l'eau, elle est en profondeur, et pour avoir l'eau, il nous faut de l'électricité. Je suis allé demander aux autorités de faire une exception pour nous, qu'on ait de l'électricité, ils ont refusé. On va perdre notre récolte, il faut que vous fassiez quelque chose. » Nous, à l'Union juive française pour la paix, on est une association politique, juive antisioniste et anticolonialiste. On n'était pas, et on n'est toujours pas, une association humanitaire. Et pourtant, on s'est lancé. On a lancé une collecte. On a été étonné de recevoir beaucoup d'argent. On a eu un mal fou la première fois à envoyer de l'argent. On s'est débrouillé, pour vous dire quand même. On a divisé en 10 la somme en 10 solidaires en France. Et à Gaza, ils ont divisé en 10, en 10 paysans les récipiendaires, qui ont vu arriver chacun plus de 2000 euros. Il n'y a pas eu un shekel de perdu. En 3 semaines, un château d'eau de 17 mètres de haut, de 107 000 litres, était construit. Et puis, il faut savoir, à Gaza, vous ne devez pas vous arrêter. Par exemple, immédiatement après, il y a eu une demande, et nous, là, vous distribuez 35 fermes, et les autres. On a refait une collecte. 5 km de canalisation, plus de 100 fermes ont été connectées. Les paysans pauvres ont dit on ne peut pas payer ce qu'il faut payer au Mokhtar pour l'électricité, pour tirer l'eau. Et donc, il n'y a que les paysans riches qui vont pouvoir utiliser l'eau. On a décidé de financer le tarif de l'eau pour qu'il soit possible pour tous les paysans, y compris les pauvres. Ils ont demandé une maison des paysans. Ils voulaient être indépendants de tous les partis politiques. On a financé une maison des paysans qu'ils ont baptisée quartier général du JFP. Et même les ministres du Hamas, quand ils voulaient rencontrer les paysans, ils venaient au quartier général du JFP. Ils ont écrit de leur propre chef, Union juive française pour la paix, en haut du château d'eau de 17 mètres, en face de la barrière. Le château d'eau a été abattu le 7 février dernier, après 8 ans d'existence. Et l'UJFP, nous avons publié un communiqué, la destruction du château d'eau de Houza, un acte antisémite, c'est clair. La plus grande réalisation que nous avons pu faire, ça a été la pépinière solidaire. Nous n'y arrivions pas seuls. Nous avons eu l'aide financière déterminante de Humanitaire, qui avait succédé au comité de bienfaisance et de secours du peuple palestinien. Humanitaire, qui a 8 permanents, dont 2 à Marseille, a été littéralement dissoute par Darmanin il y a 3 mois. C'est pas une dissolution, mais ça revient au même. Ils n'ont plus de compte bancaire qui a été saisi. Les permanents ont été licenciés et ils n'ont plus d'existence légale. Alors, on ne sait pas quand est-ce que le procès pour enlever ça aura lieu, mais ça fait partie des nombreux méfaits de Darmanin. Heureusement que Retailleau arrive et qu'il a dit qu'il y aurait plus de fermeté. Et donc, avec Humanitaire, ils ont pu construire une pépinière solidaire. Et là, c'est 1000 fermes, tout le sud de la bande de Gaza. Ça veut dire qu'avec cette pépinière solidaire, on passait des semences aux plants. Et en plus, avec des plants qui étaient de bonne qualité, alors que jusqu'à présent, on leur livrait très souvent des plants avariés. Ça a nettement augmenté la productivité. Avant le 7 octobre, on avait la plupart des écoles du sud de Gaza qui visitaient la pépinière pour se former. On était en train de réfléchir à une agriculture sans pesticides parce qu'ils empoisonnent la terre à cause des ravageurs. Et on essayait petit à petit avec des ateliers de leur faire comprendre qu'il fallait réfléchir à un autre type d'agriculture. Et avec des formations, on était en train de réfléchir à tout ça. La pépinière a été abattue. À Rouza, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rue, il n'y a plus de bâtiment. Tout a été absolument rasé. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis le 7 octobre ? Les paysans se sont réfugiés dans une école de l'UNRWA qui a été attaquée. Ils ont eu 10 morts. On a, avec notre correspondant à Gaza, celui avec lequel on travaille maintenant depuis 2016, on a évacué 2000 personnes sur Al-Mawassi puis sur Dar el-Balah. On a payé, c'est ce qui nous a coûté le plus cher, des tentes. On a pu, avec l'argent, creuser des sanitaires. Et puis, il y a eu très rapidement, à cause des eaux usées dans les tentes, des maladies cutanées. Donc, on a pu trouver, ils ont pu trouver, et nous, on a payé, une fabrique à Gaza de détergents. Et là, c'est carrément une vingtaine de camps maintenant qui ont été nettoyés. Il faudra continuer. Ça coûte très cher. Et voilà, on lance sans arrêt un appel pour qu'on puisse continuer. Dans les plus grandes... Médecins du Monde va prendre contact avec les camps qu'on gère et va essayer justement de soigner les maladies cutanées. On gère actuellement, l'équipe de l'UJFP, trois camps. Il y a le camp principal qui est le camp des paysans, c'est plus de 2000 personnes. Il y a le camp des pêcheurs, il n'y a plus un seul bateau à Gaza qui tient debout, mais les pêcheurs se sont organisés. Et notamment, Sarah Katz a fait un film sur les pêcheurs qui a été primé. Donc il y a de l'argent qui est arrivé, des prix, par le film qui a été fait sur la mer à Gaza. Et prochainement, il y a un festival en Galice, où également c'est ce film qui va être présenté. Probablement, il y aura aussi un financement de ce camp qui arrivera de ce côté-là. Et le troisième camp que nous finançons, c'est celui de l'association Avicenne, Ibn Sina en arabe, c'est une association d'éducation populaire. Le père Abou Marcel est là, c'est le fils Marcel qui gère le camp, mais toute la famille de son frère est morte dans un bombardement, 25 morts, dont son frère, sa belle-sœur et tous ses neveux. Et dans tous ces camps-là, on a réussi d'une part à organiser des repas collectifs. Alors ça coûte cher parce que les prix ont explosé à Gaza quand on trouve quelque chose. Mais il y a 3 repas collectifs par semaine. Pour le reste, on a pu distribuer un assez grand nombre de gazinières pour que les familles puissent se faire à manger et puis puissent se procurer aussi de l'eau. On a amélioré la distribution de l'eau. On a surtout, c'est notre grande fierté, rescolarisé environ 5000 enfants. Et là, de tous les niveaux. Parce qu'il faut le savoir... Gaza, c'est une société incroyablement éduquée, comme toute la Palestine. Il y a 1% d'illettrés à Gaza contre 35% en Égypte voisine. Il y avait, quand on y était en 2016, 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année, qui acceptaient de travailler gratuitement pour que leur société ne s'écroule pas. Vous voyez les dangereux terroristes. Et voilà ça. Le fait que ça se continue en même temps, la scolarisation des enfants, c'est pas seulement le fait de leur apprendre quelque chose, c'est le fait de les resocialiser. Et à Gaza, ils ont énormément de psychologues extrêmement qualifiés qui n'ont pas de travail la plupart du temps. Et ben nous, on les emploie dans tous les camps auxquels on envoie des sommes importantes. il y a des ateliers d'aide psychologique et ils font séparément les enfants, les femmes, les hommes, parce que c'est pas tout à fait la même façon de les traiter. Et c'est fondamental. Il faut savoir qu'avec les bombardements, avec le stress, sans les ateliers d'aide psychologique, ça craquerait. Et je vous invite toutes et tous à aller voir le site ujfp.org, qui est notre site. Vous verrez, pratiquement depuis maintenant presque un an, il y a des comptes rendus quotidiens de ce qu'on fait dans nos différents camps. Alors la plupart du temps, ce sont les ateliers, ce sont les distributions de détergents ou de nourriture. Il y a énormément de vidéos, donc vous verrez ce que c'est que la vie. Savoir quand même que 90% de la population de Gaza a été déplacée. Donc vous verrez ce que c'est que la vie sous les tentes. Le but des sionistes depuis 100 ans, c'était que la Palestine et les Palestiniens disparaissent. C'était que les Palestiniens deviennent les Indiens du Proche-Orient, c'est-à-dire un peuple vaincu qui n'est plus en situation de réclamer ses droits. Et malheureusement, dans l'histoire, ben, j'ai parlé des Amérindiens, les Lapons aussi ont été vaincus, les aborigènes d'Australie ont été vaincus, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils peuvent plus réclamer ce qu'était leur droit historique. Et le but, évidemment, des sionistes, c'était que les Palestiniens subissent ce sort et qu'ils partent, qu'ils se fondent dans le monde arabe, ou que s'ils restent, ils soient enfermés dans leurs réserves, qui ressemble étonnamment à ce qu'étaient les Bantoustans en Afrique du Sud. Ben dans ce que vous verrez sur le site de l'UJFP, vous verrez que dans les pires circonstances à Gaza, avec des bombardements, avec des morts, avec des épidémies, ça se passe pas. La population, alors il y a, vous verrez, c'est pas bisounours, hein. Il y a des descriptions des épidémies, il y a des descriptions du début de la criminalité. Il y a des descriptions des violences familiales qui ont lieu dans cette situation apocalyptique, mais ça résiste. Ces phénomènes-là existent un peu partout, mais la société de Gaza, pour l'instant, malgré tout ce qu'elle subit, elle n'est pas vaincue, et il ne faut pas qu'elle soit vaincue. Donc je vais terminer par là. La Palestine, pour en sortir, il y a deux choses complètement complémentaire. Aider la société à ne pas sombrer. Donc je vous invite à aller voir notre collecte. On a réussi à envoyer entre 200 et 220 000 euros depuis novembre. On a des réserves encore pour 2 mois. Il faut que ça continue à arriver parce que les fascistes qui sont au pouvoir en Israël ne vont pas s'arrêter puisqu'on ne les arrête pas. Et puis, la deuxième condition, évidemment, sur cette guerre, elle se déroule chez nous. C'est nous, société des pays occidentaux. Nous devons, par nos protestations, par nos manifestations, par ce qu'on fait en ce moment, parlant à la radio, par les conférences, par les formations, il faut que nous soyons assez forts pour obliger nos gouvernements complices à cesser de soutenir les génocidaires et à sanctionner cet État voyou. Alors je terminerai sur une note d'optimisme. Eux-mêmes, hein, c'est les macronistes et l'extrême droite, si vous m'écoutez, il faut savoir que Netanyahou ne s'arrêtera pas et que ce qu'il est en train de faire va détruire définitivement tout ce qu'est le droit international, tout ce qu'est l'ONU, et c'est le retour à la loi de la jungle. Même mes ennemis capitalistes, c'est pas sûr que vous souhaitiez cela, alors sanctionnez l'occupant. Et vous autres, dimanche à la manif. Merci.